bientôt arriver à Arras. Oh, Justine, tu sais pas à quel point j'ai hâte d'arriver. Parce que bon, 4 heures de train, c'était un peu long, mais j'ai quand même hâte de participer à la conférence.
Oui, puis ça va être génial, on va enfin pouvoir faire connaître notre collectif contre l'effet Matilda, et je pense que les gens ils vont vraiment apprécier notre conférence. En tout cas, j'espère.
Oui, et puis j'ai hâte de faire découvrir à tout le monde les recherches qu'on mène depuis plusieurs années.
Ça va être génial.
Excusez-moi de vous gêner, de vous déranger. Je suis critique littéraire spécialisé dans le domaine des sciences, donc j'ai un bac plus 6. Et moi aussi je vais à cette conférence.
Ah bon ? Et en tant qu'intervenant ?
Oui.
Ah mais fantastique ! Et vous présentez quelle œuvre ? Quel fait ?
C'est pas un fait. C'est une œuvre qui raconte des faits, donc c'est une œuvre scientifique. Ça s'appelle Sous Terre. Donc c'est un roman graphique. Donc, c'est une BD, en vrai, c'est vraiment une BD. Qui raconte ce qui passe sous nos pieds.
Ah génial ! Bon, on a hâte de vous entendre.
Et il y a un gros pourcentage de ce qui passe sous nos pieds. C'est un gros pourcentage de la vie, de la biologie en tout, en fait.
Bah, vous nous l'expliquerez tout à l'heure, je pense.
Dans son ensemble. Ouais, oui, effectivement, oui, on expliquera tout à l'heure.
À tout à l'heure.
À la conférence. À tout à l'heure. Où c'est ma place ? Ah, oui, c'est là.
Voie 1. Le TGV numéro 3480 à destination d'Arras va partir. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ.
Justine est déjà devant, je vais aller la rejoindre, on passe bientôt.
Combien de femmes scientifiques pouvez-vous citer ? Je suis presque sûre qu'elles se comptent sur les doigts d'une main. Mais savez-vous pourquoi est-ce que vous en connaissez si peu ? Est-ce que les femmes sont simplement nulles en sciences ? Ou est-ce qu'on invisibilise leur travail au profit de leurs collègues masculins ? Vous vous en doutez, la deuxième option est la bonne. En effet, la contribution des femmes à la recherche scientifique est souvent minimisée. C'est ce qu'on appelle l'effet Matilda, en référence à Matilda Jocelyn Cade, une suffragette américaine qui a été une des premières à avoir exprimé cette théorie. De nombreuses femmes n'ont jamais reçu de récompense, voire de prix Nobel, n'ont jamais accédé à la reconnaissance que nous leur devons, parce qu'elles ont été oubliées ou que leurs collègues masculins se sont attribués les recherches, les résultats. Cette théorie a approfondi celle d'un sociologue des années 60, qui avait développé une théorie sur la façon inéquitable dont la gloire est partagée, notamment dans les sciences. Cette théorie s'appelle l'effet Mathieu. Dans les années 80, Marguerite Rossiter va théoriser l'effet Matilda en reprenant l'effet Mathieu et en remarquant qu'il est démultiplié chez les femmes scientifiques. Ainsi, de nombreuses femmes sont tombées dans l'oubli, telles que Jocelyn Bell, Ada Lovelace, Marguerite Hamilton.
L'effet Matilda invisibilise les femmes, mais un livre pour enfants les met en avant. J'ai découvert une saga qui se décompose en deux ouvrages, dont le titre est « Histoire du soir pour filles rebelles ». On pense à un livre assez enfantin à première vue, mais ce n'est pas le cas. Grâce à l'ouvrage, on découvre 100 destins extraordinaires de femmes que la société a invisibilisés. C'est un livre assez complet dans lequel on rencontre des femmes qui ont été à l'origine de projets ou de créations et d'innovations que vous utilisez au quotidien. Vous écoutez peut-être cette chronique sur votre téléphone, grâce aux ondes Wi-Fi, et bien vous pouvez remercier Eddie Lamar. Grâce à ce livre, on en apprend davantage et l'on se rend compte à quel point les femmes ont eu un impact dans les sciences. Par exemple, Brenda Milner est une neuropsychologue, mise en avant donc par Histoire du soir pour filles rebelles. Elle est aujourd'hui âgée de 105 ans et a étudié la psychologie à l'université de Cambridge, pour apprendre le fonctionnement du cerveau. Elle s'installe au Canada pour préparer son doctorat. Brenda était si douée qu'un de ses professeurs lui offrit un poste, mais elle le refusa. Une des plus grandes expérimentations qu'elle mena se fit sur un patient à qui on avait retiré les lobes du cerveau, ce qui l'empêchait donc de créer de nouveaux souvenirs. Elle essaya alors de lui faire passer des tests, et chaque jour, il avait de meilleurs résultats, alors qu'il ne se souvenait pas les avoir passés. Elle découvrit que le cerveau avait au moins deux systèmes de mémoire, le premier qui s'occupe des noms, des visages, des expériences, et l'autre qui gère les facultés motrices, nager par exemple. Grâce à ses travaux, elle devint l'une des plus grandes expertes au monde dans le domaine de la mémoire et des sciences. Je vous conseille donc de jeter un coup d'œil à ce livre, que vous soyez enfant ou adulte. Il permet d'en apprendre plus sur les femmes, les faits scientifiques, et vous pourrez y découvrir la vie de femmes aussi extraordinaires que Brenda Milner.
Mathieu Brugna n'a pas pu venir nous rejoindre cet après-midi. Nous avons invité un critique littéraire venu pour nous expliquer les enjeux de cette BD et son opinion.
Marc-André Sellos est né le 29 mars 1968 à Paris. C'est un professeur en biologie français. Il a étudié à l'école normale supérieure en 1986, où il obtient l'agrégation en sciences naturelles en 1991. Il enchaîne en un an à l'école nationale des eaux et forêts de 1992 à 1994. Il est actuellement professeur en biologie dans plusieurs grandes écoles mondiales comme l'université de Gdansk. Il est officier de l'ordre du mérite agricole depuis 2022. Il est l'éditeur de plusieurs revues internationales, dont par exemple New Phytologist et entre autres la revue de vulgarisation Espèces. J'aime bien le bande dessinée documentaire dont il est le collaborateur avec l'auteur et dessinateur Mathieu Brugna. Cette BD, c'est Sous Terre, un livre drôle et riche en connaissances scientifiques sur ce qui se passe sous nos pieds. Voici le synopsis de l'histoire. Après des millénaires à régner sur le monde souterrain, Hadès, le dieu des enfers, décide de passer le flambeau. Son but, faire prendre conscience à ceux qui vivent à la surface de la Terre, donc les humains, de l'importance et de la richesse réelle du sol. Mais Hadès n'est pas un enfant de cœur, et il n'entend pas laisser les clés de son royaume au premier venu. Parmi les candidats à sa succession, Suzanne et Tom, deux ados, se lancent dans cette course au savoir qui prend forme d'épreuves aussi instructives que mortelles, car qui ne réussit pas l'épreuve disparaît en explosant, un peu comme dans les jeux vidéo. Un seul gagnera ces jeux, celui ou celle qui sera capable de voir au-delà des préjugés et de comprendre les véritables enjeux de ce monde invisible. J'aime bien cette BD car je trouve qu'il y a une bonne histoire, on apprend plein de choses, et notamment d'un point de vue scientifique, en rapport avec la vie sous terre, sur les lombriques, qui sont très utiles pour que la terre soit plus fertile et saine.
Il est 14h, nous allons bientôt accueillir une conférence sur le phytoplancton. Nous attendons Clémence et Adèle.
Bonjour à tous, vous êtes toujours sur Radio Atlantique. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Bébert, phytoplancton, qui va vous parler de sa fonction au sein de l'océan. Et oui, ils vivent dans le même environnement que nous, mais vous ne les avez peut-être jamais vus, ils sont invisibles à l'œil nu. Grâce à notre experte sur les phytoplanctons, Berthe la Tortue, nous avons pu en trouver un afin de l'interviewer pour mieux comprendre en quoi le phytoplancton est essentiel à notre survie et à celle de nos voisins, les humains. Pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour, je suis Bébert, un phytoplancton. Je suis constitué d'un ensemble de cyanobactéries et microalgues qui vivent dans les eaux de surface.
Et on dit que vous êtes le poumon de la planète. Est-ce vrai ? En quoi consiste votre rôle dans la protection de notre planète ?
En effet, grâce à la photosynthèse, je produis plus de la moitié de l'oxygène terrestre et consomme la moitié du dioxyde de carbone. Je suis indispensable à la vie marine, car je me trouve également à la base de la chaîne alimentaire océanique. Vous me mangez souvent au petit déjeuner sans même le savoir. Vous semblez étonné ? En fait, je nourris le zooplancton qui est ensuite mangé par le plancton qui est ensuite mangé par vous.
Vous m'apprenez quelque chose qui me choque quelque peu, mais bon. Et donc, il y a un risque à ce que tu disparaisses ?
Malheureusement, oui. Cette disparition aurait pour principale cause l'augmentation de la température des eaux océaniques de surface. Ça, je l'ai appris par Janine la mouette.
Ah, mais alors que se passerait-il si tu disparaissais ?
Ma disparition provoquera un appauvrissement de la population des animaux marins, mais aussi la disparition du corail et l'acidification de l'eau.
Comment faire pour éviter que tu disparaisses?
Alors, là encore, c'est mon amie Janine, la mouette, qui m'a tout raconté. Et en fait, les humains, ils font la culture des phytoplanctons dans des bassins aquacoles pour faire de l'élevage et la production de phytoplancton. Et du coup, ils sont enfermés, c'est triste.
Effectivement. Merci beaucoup pour ton témoignage, Bébert. Grâce à toi, nous en avons appris plus sur les phytoplanctons et votre importance vitale pour la vie sur Terre. Nous allons tout faire pour vous venir en aide. Merci encore et à bientôt sur Radio Atlantique.
Le coach personnel du Radiolab, Zoé, va intervenir.
Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais répondre à la question « Comment la science permet d'améliorer les performances des sportifs ?» et comment expliquer qu'après des centaines d'années de compétitions sportives, les meilleurs records mondiaux continuent d'être battus, et si la science y était pour quelque chose. L'évolution des matériaux utilisés dans le sport a contribué à l'amélioration des performances. En 1936, lors des Jeux de Berlin, Jesse Owens parcourt le 100 mètres en 10,2 secondes, alors que 73 ans après, Usain Bolt bat le record du monde avec la distance reine de 9 secondes 58. Peut-on réellement comparer ces deux performances quand l'un prend son départ sur une piste de terre avec des trous dans le sol en guise de bloc de départ, tandis que le célèbre Jamaïcain bénéficie des dernières avancées technologiques pour le record du monde? Aujourd'hui, la collecte de données de l'athlète permet de réaliser des statistiques des joueurs et donc optimiser leurs performances. Depuis quelques années, un grand nombre d'athlètes ont recours au dopage. Effectivement, nous avons des atomes de carbone sous nos semelles de chaussures, mais nous ne pouvons pas en consommer pour l'augmentation de la force, puissance musculaire et amélioration de l'oxygénation, mais cette consommation reste interdite car se doper avant un match ou une compétition est de la triche. Et le sport doit surtout rester un plaisir à pratiquer. Merci de m'avoir écouté et à bientôt sur Radio PFM 99.9.
Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Ta balance fait trop la gueule, il va falloir éliminer. Faut souffrir pour être beau, pour pas se faire photoshopper. Ne t'arrête pas quand t'as mal, mais plutôt quand t'as tout donné. Oui, tout donné, toujours se relever, toujours recommencer. Interdit d'abandonner, hey. Faut taffer le cardio pour mieux endurer. Faut taffer les abdos.
Enchaînez les squats, enchaînez les squats, enchaînez les squats, squat, squat. Abdo dips, pompe bar, abdo dips, pompe bar. Frappez au sac, frappez au sac, frappez au sac, sac, sac. Allez, va chercher le chrono, va chercher le chrono. Tous ensemble à la ligne d'arrivée, tous ensemble à la ligne d'arrivée. On va taper dans le cardio, on va taper dans le cardio. On va viser dans le coche, tu vas savoir qui est coach.
Faut taper le cardio. La vie c'est musclé, ouais,
pompe, barre, abdos, dips, pompe, barre. Allez, 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 allez.
Allez, 10 secondes de récup et on repart.
Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Allez, 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 allez. Relève-moi, c'est dans la tête, on est ensemble, on va y aller. Allez, 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 allez.
Arrivée de Sacha dans 3, 2, 1.
Bonjour, je suis Sacha du Radiolab. Aujourd'hui, pour le thème sur la science, je vais parler de faits insolites sur les planètes. J'ai jamais aimé la science en général, mais je suis très curieux sur l'astronomie. Avant de commencer, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais présenter les planètes du système solaire et leur équivalent en dieu romain. Dans l'ordre, en partant par le Soleil, il y a Mercure, dieu du commerce, des voleurs et messager des dieux, Vénus, déesse de l'amour et de la beauté, la Terre, Mars, dieu de la guerre, Jupiter, chef des dieux, dieu du ciel, de la lumière et du tonnerre, Saturne, dieu du temps, Uranus, dieu du ciel, et Neptune, dieu de l'eau et de la mer. Je vais commencer avec Mercure, c'est la planète la plus proche du Soleil, mais c'est pourtant pas la plus chaude, c'est Vénus, car Mercure n'a pas d'atmosphère. Mercure est aussi plus petite que Ganymède ou Titan, les satellites naturels respectifs de Jupiter et Saturne. Sur Vénus, il pleut presque continuellement, mais la pluie ne touche jamais le sol, car avec les températures extrêmes, la pluie s'évapore. Le mont Olympe, le plus haut sommet du système solaire, se trouve sur Mars, la planète rouge. Il est 3 fois plus grand que l'Everest, le plus haut sommet de la Terre, environ 27 km contre environ 8 km. Toutes les planètes du système solaire peuvent presque passer à l'intérieur de Jupiter, qui aurait dû être une étoile à la base. Mais dans son processus de formation, il n'y a pas eu de fusion nucléaire. La star de notre système solaire, Saturne, très connue pour ses anneaux faisant plus de 360 000 km de diamètre, en une épaisseur de même pas 10 mètres. C'est d'ailleurs pas la seule planète à posséder des anneaux, toutes les grandes gazeuses en ont, mais celle qui a les plus grands et majestueux. Uranus était anciennement observé comme une comète, mais les scientifiques se sont rendus compte grâce à son orbite que c'est une planète. Et pour finir, Neptune, la planète bleue, est la seule de notre système à avoir été découverte par calcul et non pas par observation. Après, elle fut observée exactement au même endroit que les calculs l'ont prédit.
6, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Oh, pff, j'ai failli piquer du nez, moi. Hey, salut, je crois que je vous ai vu tout à l'heure dans le train là, qui partait de Tours et tout, je montais à Blois.
Ah oui, c'est vous le fameux critique littéraire pour la BD ?
Oui, oui, merci. Oui, oui, oui. Ça vous dit de m'accompagner à la marche pour le climat ? Il y en a une organisée après la conférence.
Ah oh bah allez, en plus notre train passe pas avant 3 heures, donc...
Ah, il y a une marche pour le climat ? Ah, moi je vais y aller aussi.
Trop bien !
Ouais, ouais.
Hey, j'ai
là,
du monde.
Marche, là, marche, là, marche.
Là, marche, là, marche, là, marche. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat. Allez, il chantait ça, maman.
Qu'est-ce que vous pensez du réchauffement climatique ?
Que ça a beaucoup changé, que ça commence à devenir dramatique un peu sur certains endroits et qu'il y en a qui réagissent mais qu'on voit pas trop.
Donc, ouais, ça impacte un peu tout le monde,
ouais.
Ça impacte aussi au niveau des espèces protégées qui peuvent disparaître et que ça devient assez dérangeant.
Est-ce que vous vous sentez concerné par le réchauffement climatique ?
Oui, tout à fait.
Bon, on l'est tous, je pense, vu les changements qui se profilent et qui existent déjà. Ouais. On l'est tous.
Est-ce que vous, au quotidien, vous faites des actions pour essayer de limiter votre consommation d'énergie ou peu importe ?
Oui, oui, bah, on essaie toujours forcément de faire le maximum. Après, c'est vrai que même les enfants sont assez sensibilisés à l'école, ce qui est dans leur école, ce qui est pas mal. Ce qui fait que même eux nous reprennent quand on fait des mauvais gestes, donc... C'est plutôt cool.
Et justement, par rapport à l'école, vous pensez qu'à l'école, on en parle assez du réchauffement climatique ?
Alors, d'un point de vue général, je ne pourrais pas vous répondre. Nous, je sais qu'à l'école, oui, ils en parlent. Ça a été même une thématique sur une année complète. Donc,
Vous venez de recevoir un petit papier, c'est parce qu'il y a eu un rassemblement contre le réchauffement climatique. Est-ce que vous pensez que c'est bien qu'il y ait des rassemblements comme ça ?
Ah ouais, quand même, ça permet de sensibiliser. Donc, ouais. Voilà.
Ça permet de faire de la prévention au niveau des gens pour qu'il y ait plus de personnes impliquées contre le réchauffement, justement.